RCF.
Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ? Roland Gory, dans son essai, publié aux éditions Les Liens qui Libèrent, nous sensibilise, nous inquiète, nous prévient que peut-être nous vivons dans les lueurs d'un astre mort et que nos croyances ne nous permettent plus de vivre dans les temps présents. Il dresse un réquisitoire, mais dans ce réquisitoire, peut-on y trouver la force spirituelle pour résister à ces forces mortifères qui marquent notre époque. Bonjour Roland Gory.
Bonjour Madame Monsieur Vidal.
Alors, Roland Gory, dans la précédente émission, vous avez dressé un bilan, j'oserais même dire un réquisitoire, contre cette défaite, contre ces débâcles. Faut-il aussi voir dans votre essai, et j'espère que vous me direz oui, un appel à la résistance, un appel, j'utilise à dessein ce mot, puisque vous avez fondé l'appel des appels.
Oui, alors, puisque vous évoquez l'appel des appels qui parle même d'un texte manifeste que nous avions écrit avec Stéphane Chédry, alerte l'opinion publique et alerte les politiques, qui sont en principe plus sourds que l'opinion publique, comme vous savez, mais des alertes sur le danger à l'heure actuelle de techniciser également les actes professionnels en incorporant à l'intérieur de l'évaluation de ces actes professionnels, des critères purement économiques et gestionnaires à court terme. À partir de quoi les médecins, les infirmiers, les professeurs, les chercheurs, les journalistes ne visent plus qu'à remplir les exigences d'un score à atteindre en perdant quelque part cette spiritualité de la finalité de leur acte. Je veux dire par là, pour faire très simple, un chercheur, et j'ai eu beaucoup de responsabilités à l'université, à différents niveaux, un chercheur va tenter d'accroître son taux de publication dans des revues à fort impact, l'impact factor, c'est-à-dire des revues bien en vue dans le réseau hégémonique de sa discipline. À partir de ce moment-là, il fait plus de la recherche. Il répond à une prescription normative, c'était une exigence d'avoir un taux de publication suffisant pour pouvoir être habilité. Et c'est lorsque, avec la T2A à l'hôpital, ce qui compte, c'est essentiellement l'acte qui fait rentrer de l'argent au pôle médico-chirurgical, on perd. L'effondrement est là. On perd la dimension de sollicitude, de souci que comporte le soin. Oui. Et il y a là quelque chose de terrible. Et vous savez, il y a une phrase de Philippe Lançon dans un article de Libération qui réagissait à l'état de l'hôpital, et il l'a bien connu, puisque blessé, comme vous savez, à Charlie Hebdo, mutilé au niveau maxillofacial, ayant subi de multiples interventions chirurgicales, ayant passé des mois à l'hôpital, il dit que au début, il ne comprenait pas comment cela se faisait que les gestionnaires qui ne connaissaient pas le métier du soin et qui manquaient d'empathie pouvaient encore manager les hôpitaux. Et il dit, j'ai finalement compris, c'est justement parce qu'ils ne connaissent pas le métier et parce qu'ils manquent d'empathie qu'ils peuvent le faire. Oui. Nous avons là, je dirais, un diagnostic aussi terrible que celui que nous avons porté à l'appel des appels dans tous les domaines, qu'il s'agisse encore une fois de l'éducation avec le palmarès des lycées, des universités, etc., ou au niveau du journalisme, la logique d'audimat, le taux d'audience. Partout, Nous sommes dans une civilisation qui est une civilisation du court terme, une civilisation du spectacle, une civilisation de la marchandise, une civilisation qui passe à la trappe les valeurs cardinales qui fondent une humanité de l'homme.
En fait, Roland Gori, ce qui fait l'objet de votre réflexion, c'est cette destruction volontaire, systématique, de tout ce qui, je vous cite, « tisse le lien social ».
Oui, et tisse également la réalité du psychisme humain.
Oui. Vous êtes psychanalyste, hein, rappelons-le à nos auditeurs qui n'auraient pas écouté la précédente émission. Et donc, il y a le lien social qui est détruit, mais aussi la psyché, le psychisme humain.
Oui, d'ailleurs, les symptômes que nous diagnostiquons aujourd'hui, que ce soit hyperactivité, trouble de l'attention, bipolarité, insomnie, trouble de l'alimentation, etc. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais les diagnostics révèlent davantage les valeurs d'une époque qu'ils ne rendent compte de la souffrance des patients. Ça, c'est encore une autre série de travaux que j'ai menée à d'autres moments. Tous ces symptômes témoignent justement que la réalité psychique est isomorphe à la réalité sociale, enfin elle est consubstantielle à la réalité sociale, et l'effondrement qui a lieu dans la réalité sociale, il est en même temps coextensif, consubstantiel de l'effondrement qui a lieu dans la réalité psychique dès lors que l'individu n'est pas accompagné dans sa subjectivation. Et ça, c'est absolument terrible. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est bien sûr le quantitatif, ce qui compte, c'est le court terme, ce qui compte, c'est l'immédiateté, ce qui compte, c'est la réactivité. Eh bien, vous avez un certain nombre de symptômes psychopathologiques qui portent la trace, justement, de cette civilisation-là.
Nous parlions tout à l'heure de résistance, comment résister à ces forces de mort, en quelque sorte. Bon, vous évoquez l'art et vous citez Paul Virilio. Et Paul Virilio, dites-vous, remarque que à la fin du 19e siècle, nous sommes passés d'une esthétique de l'apparition à une esthétique de la disparition de l'humain. Est-ce que l'art aussi fait partie de ce qui s'effondre, ou faut-il y voir encore, faut-il espérer encore qu'il va sauver, si je puis utiliser ce terme quelque peu connoté, qu'il va sauver l'humain?
Alors, je crois qu'il y a un statut que j'appellerais social de l'art, de l'œuvre d'art, c'est-à-dire ce qui est reconnu à un moment donné comme œuvre d'art. Et incontestablement, la reconnaissance d'une œuvre comme étant du registre de l'art, elle obéit aux valeurs de l'époque. Vous vous souvenez de la devise du groupe de sécession à Vienne à la fin du XIXe siècle, Klein, Schill, etc. Oui. À chaque époque son art, à chaque art sa liberté. Il va de soi, par exemple, que l'art que propose Le Corbusier, avec son architecture très fonctionnelle, très machinique, très instrumentale, n'est pas sans rapport avec les valeurs fascistes de l'époque. Il y a là quelque chose qui est absolument terrifiant, qui réduit l'humain à la machine. La chaise est une machine où s'asseoir, la ville est une machine où faire des affaires, l'habitat est une machine où se loger. Bon, il y a là une vision du monde, c'est-à-dire, vous l'évoquiez tout à l'heure, n'est-ce pas, il y a toujours des métaphysiques, des écamus derrière les méthodes. Bon. Donc le statut de l'œuvre d'art, le statut social de l'œuvre d'art, il est bien évidemment extrêmement dépendant des valeurs visibles à une époque donnée. Après, il y a une autre dimension de l'art, c'est celle à laquelle je me réfère pour éviter justement l'esthétisation systématique de l'œuvre d'art. C'est la capacité de tout sujet de créer, d'inventer. C'est-à-dire que l'enfant qui joue, pour moi, c'est un artiste.
Il crée. Plus
exactement, l'artiste est celui qui a su conserver sa capacité d'être un enfant qui joue et de partager des innovations avec d'autres. Donc, oui, je crois que l'art, la poésie... Alors là aussi, vous avez Simone Veil, elle insiste, comme Jaurès d'ailleurs, comme Jean Jaurès, ils insistent tous les deux sur la nécessité que le peuple, que les ouvriers, les classes défavorisées trouvent dans la poésie une denrée mentale. Et c'est pas un luxe, dit Simone de Veil pour eux. C'est essentiel comme le pain. Donc c'est un point qui est extrêmement important et qui d'ailleurs, je dirais, illustre un peu ce que j'entendais par effondrement. Il y a un petit clin d'œil dans le terme d'effondrement. Pas simplement, je me soumets pas simplement à la mode, je déteste la mode. Il y a un petit clin d'œil dans la mesure où effondrement, en cuisine, effondrer, ça veut dire vider un animal de l'intérieur. Ça veut dire enlever la substance. Et si vous voulez, ma thèse, c'est qu'à l'heure actuelle, justement, nous sommes dans une société qui a peut-être effondré au sens de vider
de sa substance.
Voilà, vider de sa substance les valeurs sur lesquelles nous continuons à fonctionner. On le voit bien en politique, la notion de démocratie, les notions de liberté, d'égalité, etc.
Et puisque nous parlions de l'art, cet art aujourd'hui est lui-même soumis à la loi du marché. Cette loi du marché que, par exemple, Paul Valéry, dans Les fruits amers de la démocratie, définit de cette façon, entre autres définitions, la concurrence tend au meilleur marché plus qu'à la meilleure qualité. Alors, je ne veux stigmatiser personne, mais des artistes comme Jeff Koons, par exemple, sont des artistes qui entrent parfaitement dans cette loi du marché.
Tout à fait. Nous sommes dans une société de la marchandise. Bon, allez vite. Nous sommes dans une société ordonnée par une concurrence débridée qui perd le sens des valeurs. Paradoxalement, les évaluations qu'à l'heure actuelle nous mettons en place ne sont pas des systèmes de pondération des valeurs de ce qui est produit, mais sont des systèmes de dévalorisation.
Oui, systèmes de dévalorisation fétichisation de l'objet qui est le signe de nos sociétés mercantiles.
Absolument. Et vous savez, Guy Debord, dans La Société du spectacle, a également une phrase que je trouve tout à fait significative quand il dit que le spectacle est le lieu où la marchandise se contemple elle-même.
Oui.
Et on trouve chez Benjamin également une analyse de l'œuvre d'art. Alors là, je ne parle plus de l'œuvre d'art singulière, subjective, encore une fois, qui est pour moi l'essentiel. Hein, enfin, on y reviendra. Mais je parle de l'œuvre d'art du point de vue de l'espace social. Mais il montre bien que l'œuvre d'art est toujours dans un rapport tensionnel avec le pôle de l'exposition, c'est-à-dire de l'esthétique, tel qu'il apparaît, par exemple, avec la notion de beauté dans la Renaissance, et puis le pôle sacré, le pôle de la révélation. Et aujourd'hui, nous voyons bien comment ce pôle sacré, dans un monde désenchanté, dans un monde désacralisé, il passe à la trappe.
Oui.
Et c'est de cela dont vous me parlez.
Oui, oui, c'est cette désacralisation générale du monde, ou pour utiliser un autre terme, vous me direz si je me trompe, un désenchantement du monde.
Tout à fait. Alors, avec un problème majeur, alors bien sûr, là, d'une certaine façon, c'est un point que j'ai traité dans l'ouvrage précédent, un de mes ouvrages précédents qui s'appelle « Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes », où justement je montre comment cette désacralisation du monde, qui est consubstantielle au capitalisme, il faut reprendre Max Weber, on voit bien comment la rationalisation par la technique, la rationalisation par le droit, est une manière d'amener les individus à raisonner, pourrait-on dire, et à vivre le monde selon la logique du rationalisme économique. Bon, là je cite Max Weber, mais c'est quelque chose de terrifiant, parce que ce besoin de sacré, ce besoin de spiritualité, s'il passe à la trappe, il peut être récupéré, je dirais, par des sectes, récupéré par des gens moins bien intentionnés que les religions traditionnelles. Je pense, bien sûr, c'est l'objet de mon livre « Un monde sans esprit », au terrorisme. C'est-à-dire que, en quelque sorte, puisque les jeunes ne peuvent plus avoir de rêves, d'utopie à partir de ce moment-là dans notre civilisation moderne. Ils vont trouver dans des sectes anti-modernes, anti-rationnelles, je dirais, le lieu de satisfaction de besoins qui vont ensuite être exploités à leurs dépens et pour des causes tout à fait néfastes, terribles. C'est le problème essentiel. Je crois que on n'a pas suffisamment peut-être porté attention aux dommages à la fois subjectifs, sociaux et politiques que peut constituer un monde simplement ordonné dans une temporalité qui est homogène, quantitative, uniforme, sans possibilité de rêver à d'autres horizons qui en même temps sont déjà là. Et ça, c'est Benjamin, vous le savez, c'est-à-dire que l'utopie, chez Benjamin, elle n'est pas au bout du chemin, du futur, des lendemains qui changent. L'utopie, elle est la capacité d'inventer un futur inédit à partir d'une situation présente, éclairée par les éléments du passé.
Nina Simone va ponctuer notre entretien.
Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river, it was boiling around to the sea, it was boiling around to the sea, it was boiling all on that day. So I ran to the Lord, please hide me, Lord, don't you see me praying, don't you see me down here praying, but the Lord said...
Dialogue. Montserrat Vidal. Roland Gori, la colère de Nina Simone s'entendait ici. Revenons sur notre propos, cher Roland Gori. Vous avez cité à plusieurs reprises Berdaïev, et je voudrais revenir à Berdaïev. Vous le citez en ces termes, le machinisme ne crée pas un homme nouveau, il le détruit. Et vous proposez de remplacer le mot machinisme par le mot algorithme. Vous décrivez là, à travers Berdaïev, la tragédie du temps présent. C'est-à-dire, dans le fond, le monde numérique dont aujourd'hui chacun utilise les avantages est aussi ce qui déshumanise, réifie l'être humain.
Oui, dans la mesure où l'individu est abordé aujourd'hui, on le voit bien par exemple à propos de la crise que nous traversons avec la pandémie, il est approché comme un segment de population statistique. Et donc nous sommes aujourd'hui définis par des profils de combinaisons numériques probabilistes. Oui. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes dans un monde un peu schizophrénique. Vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé avec, je dirais, l'œuvre de Minkowski qui décrit l'univers du schizophrène comme un univers tout à fait abstrait, tout un univers géométrique, un univers désencarné où il a lâché la proie pour l'ombre. Mmh. Et c'est un peu dans ce monde-là que aujourd'hui nous vivons, jusqu'à, bien évidemment, voir émerger ces nouvelles pathologies au Japon et d'ailleurs aussi en Europe, qu'on appelle les hikikomori, qui sont des adolescents ou des jeunes adultes
qui s'enferment.
Qui non seulement ne sortent plus de chez eux, non seulement ont acté un décrochage familial, scolaire, social, professionnel, mais ils sortent plus de leur chambre, ils sortent plus de l'écran de leur ordinateur. Ils ont une vie d'avatar, avec d'autres avatars. Et il y a là une pathologie qui vient quelque part révéler, refléter l'état de notre civilisation. Alors, bien évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des résistances, bien évidemment. Les individus, les sujets ne se laissent pas comme ça réduire à des segments de population statistique ou à des combinaisons numériques, bien évidemment. Mais il y a quand même ce rythme, ce risque, et ce risque est d'autant plus important qu'il est rythmé justement par un mode d'éducation, par un mode de transmission qui passe par la voie privilégiée des sciences, des mathématiques, de la technique, chose formidable par ailleurs, il ne s'agit pas d'opposer une discipline à une autre, mais qui laisse de côté tout ce qui est littéraire, tout ce qui est poétique, tout ce qui est capacité justement de créer, et on fabrique quelque part des individus très conformistes.
Mais Roland Gori, vous citiez Benjamin, que vous admirez, j'ai senti cela à vos propos et à la lecture de votre essai. Benjamin, mais aussi Kafka, mais aussi, j'ai rajouté un romancier que j'aime beaucoup, qui est Robert Musil. Est-ce que chacun ne montre pas cette crise de la transmission qui marque la modernité, et la modernité la plus récente? Nous ne transmettons pas, nous disons à nos enfants, regardez tel écran, regardez tel dessin animé, regardez telle émission, et on communique, mais on ne transmet pas.
Tout à fait. Et on communique sur le mode du verbiage, sur le mode d'une communication, dans le mauvais sens du terme, de la com, pour aller vite, donc une manière de vendre en quelque sorte son opinion, de vendre ses paroles pour mieux se vendre. Donc il y a ce risque. Simplement, je pense que nous avons fait un pas de plus. Et nous avons maintenant les moyens à la fois techniques, institutionnels, politiques, de toujours davantage réduire la part d'autorité au profit d'un quadrillage normatif des conduites. Et là est le problème, c'est-à-dire que la révolution informatique, comme toute révolution, que ce soit l'imprimerie, l'informatique ou autre, est tout à fait formidable, mais elle a aussi sa part d'ombre. Vous savez ce que disait le poète Kelly Gibran, qu'est-ce que le soleil si ce n'est un faiseur d'ombre? Eh bien, chaque fois que nous produisons une révolution technique tout à fait formidable, elle est accompagnée, si nous ne prenons pas soin justement de cette découverte, elle est accompagnée d'ombres, comme par exemple, aujourd'hui, je dirais, la transformation de tout enseignement en combinaison numérique, en savoir non narratif. Ce qui était déjà annoncé, bien sûr, avant, mais là, on a fait un pas supplémentaire, je crois. Vous voyez, et la crise de l'autorité, c'est la même chose. Il y a un pas supplémentaire aujourd'hui qui n'est pas sans rapport avec des possibilités de soumettre sans apparaître comme un lieu d'autorité. C'est-à-dire qu'en gros, nous produisons une soumission sociale librement consentie par les moyens de la technologie, par les moyens justement des normes que nous imposons. Les normes, qu'est-ce que c'est? Quand Guilhem les définissait comme étant la somme des exigences imposées à des existences. Enfin, vous voyez bien comment aujourd'hui, par, je dirais, un monde numérisé, nous pouvons imposer des exigences, des existences, sans qu'ils s'en aperçoivent, et en leur faisant penser en plus que c'est drôle, c'est fun, et c'est à la mode.
Et ces écrans, ce monde numérisé, souvent nous ancrent dans l'immédiateté, alors que le passé est nécessaire, la mémoire est nécessaire. Il faut nous souvenir. Justement, un autre auteur que vous admirez, Théodore Adorno, réfléchit sur cette importance de la mémoire, du récit et de l'émancipation. comment traiter le passé pour pouvoir vivre le présent et envisager le futur.
Ah, c'est un point tout à fait essentiel que vous abordez. Alors, je crois que c'est sans doute en ce point aussi que ma pratique psychanalytique de plusieurs décennies m'a donné, je dirais, le goût de l'histoire, bien que j'ai longtemps hésité d'ailleurs entre faire des études d'histoire ou m'intéresser à la psychopathologie. Vous voyez, mais Adorno montre bien effectivement que repenser le passé, c'est être à même non seulement de déchiffrer les traces et les vestiges de ce passé, mais c'est surtout d'en repérer les formes actualisées dans le présent. Pour être très concret, à propos du nazisme abordé par Adorno et par Hannah Arendt, par exemple, le nazisme, c'est pas simplement reconstituer les traces, les vestiges, les conditions qui ont pu produire et les organisations de cette maladie de la civilisation industrielle, de Foucault en fait la vérité d'une certaine manière du capitalisme industriel, c'est essayer aujourd'hui justement de repérer quelles sont les formes qui en quelque sorte appartiennent à la famille du nazisme. Bon, vous le savez, Johann Chapoutot a écrit un livre sur le livre d'obéir où il montre comment certaines méthodes de management sont, pourrait-on dire, des formes réactualisées du nazisme à partir de la trajectoire personnelle de Reinhard Hahn, un ancien nazi, bon, qui ensuite a fondé une école de management. Donc je crois que c'est ça qui est important. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, l'histoire, c'est pas, je citais tout à l'heure avec Benjamin, mais on pourrait prendre Paul Veil, on pourrait prendre Irénée Maroux, on pourrait prendre nombre, Marc Bloch bien sûr, on pourrait prendre Vernant. L'histoire telle qu'elle peut s'écrire à partir, je dirais, d'une certaine conception justement de l'écriture, c'est ce qui, dans le présent, vient nous solliciter. C'est-à-dire qu'il y a un cordon ombilical, dit Irénée Maroux, entre l'historien et l'histoire. Vous ne pouvez pas écrire l'histoire de la même manière à des siècles différents, sauf si vous tombez dans l'illusion positiviste de restituer le passé tel qu'il a été. Et je crois que c'est un point important et qui montre bien que on va, en écrivant, l'histoire, en quelque sorte, est construite par l'écriture au présent de faits historiques apportés par des documents. Je ne sais pas si je suis clair. Et que ce faisant, nous sauvons ce qui est en lieu aujourd'hui dans le présent que nous ignorons. Bon, pour faire vite et pour faire simple, je dirais qu'au niveau de la psychanalyse, comme vous le savez, la plupart des symptômes d'un sujet sont finalement des blessures de mémoire et qui ne peuvent pas se dire autrement que par la voie de ces symptômes. C'est la remémoration des traumatismes, la remémoration de ces blessures, des conditions d'émergence de ces blessures qui permet la guérison. Mais ça se fait sans forcément se souvenir. Moi, j'ai toujours expliqué à mes étudiants que le transfert, la relation patient-analyste, cette relation, c'est se rappeler sans se souvenir. C'est-à-dire, vous savez pas pour quelle raison vous êtes opposant à votre analyste, vous ne savez pas que c'est en lien avec la position que vous pouviez avoir face à l'autorité, etc., dans votre petite enfance et autres, mais vous vous en rappelez. C'est-à-dire que vous agissez de cette manière, et agissant de cette manière, vous restituez dans le présent les formes du passé. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important, justement, de retrouver ces traces du passé comme forme actualisée dans le présent et pas simplement, encore une fois, comme quelque chose de dépassé.
Merci Roland Gory, merci. Deux émissions ne sont pas suffisantes pour rendre compte de la richesse de votre essai, dont je rappelle le titre « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances, au lien qui libère ». Lisez cet essai particulièrement vivifiant et qui éclaire notre présent.